putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique.
Peut-être nous décréter un couvre-feu.
C'est joli ces souvenirs, ils sont complètement...
Jusque quelle heure?
Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon.
Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenir entre eux.
Minuit. Découille.
La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Décines, Vénitieux, Lyon.
On est encore réveillés sur Canu.
Si on l'évoque, s'il y avait une image... Pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h23.
C'est débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors, il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
La caractéristique de Ginkgo, c'est d'avoir pensé les espaces publics avant les espaces habités. La mixité, elle s'exerce à l'îlot et au niveau du quartier aussi, puisque tous les équipements sont là pour que toutes les populations vivent, les familles avec leurs enfants. Nous avons conçu un concept global qui rassemble tout le monde et ensuite les architectes se sont exprimés en créant des formes plus ou moins variées, plus ou moins diverses.
Ces logements ont été conçus toujours largement au-dessus des normes en vigueur en matière d'isolation thermique. Donc on est très performant sur le plan environnemental, sachant que par ailleurs, on est desservi par un réseau de chaleur interne avec une chaufferie biomasse.
C'est un éco-quartier.
On est 100%.
C'est complètement un éco-quartier. Effectivement.
Alors pour moi, ce quartier, c'est un peu
la ville en vogue, finalement.
Ah ouais.
Il y a de la mixité, il y a de la participation. Il y a surtout, effectivement, un quartier. Et là, en l'occurrence, c'est le quartier Ginkgo à Bordeaux et qui est fabriqué par Bouygues Immobilier, un petit acteur du BTP de l'immobilier qui donc fabrique des quartiers et les quartiers ça nous intéresse pas mal ce soir je crois.
Et oui, nous on est Minuit Décousu bien sûr sur cette musique hyper entraînante de Bouygues là. Il est exactement 23h05 dans les studios de la plus rebelle des radios, c'est Minuit Décousu qui prend l'antenne jusqu'à minuit et ce soir effectivement on va en découdre avec les quartiers. L'émission c'est pas de quartier. Qu'est-ce que vous avez préparé les gars?
Moi, j'ai préparé quelque chose sur le quartier village. Je vous en dis pas plus, mais à part que ça a un lien avec la gentrification. Et j'ai aussi brodé un texte autour de pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos ou l'inverse.
Moi, je me suis intéressé à un terme qu'on accole souvent au quartier populaire. Ce terme, c'est ghetto. Et j'y suis allé avec le bouquin de Pierre Gilbert qui s'appelle Quartier populaire. Et évidemment, la musique qu'on adore à Minuit Décousu, le rap.
Et moi je suis allé farfouiller les disques durs pour retrouver des interviews de personnes qui ont participé à l'émission Parloir Libre qui vont nous parler des quartiers de haute sécurité dans les années 80, leur lutte, la transformation en quartier d'isolement et puis aussi les quartiers disciplinaires, autrement dit les mitards.
Et puis évidemment à l'issue de cette émission on continue de vous diffuser le feuilleton Le cul entre deux chaises, une histoire intime de l'immigration yougoslave. Ce soir c'est déjà le 7e épisode et ce 7e épisode il s'appelle Feu l'usine, je vous en lis le résumé. Arrivés en France dans une période de plein emploi pour les ouvriers, ouvrières, Raïma et Racine ont vécu le processus de désindustrialisation de l'intérieur. À mesure que les conditions de travail s'améliorent, l'emploi se déshumanise et se raréfie. On écoute ça à la fin de l'émission.
Mais tout de suite, c'est parti pour une traversée de textes, de sons et de voix sur le thème du quartier. Pas de quartier ce soir sur le 102.2.
Je voudrais que vous regardiez cette affiche. Vous voyez le slogan ? Des sous pour un toit. Vous savez ce que c'est ?
Publicité.
Ouais, c'est de la pub.
Vous me faites un numéro de clown, là ? Toi, le clown blanc et lui, le faire-valoir ? Je vous parle du message de ce panneau, ce qu'il représente. Ça recouvre la réhabilitation. En clair, les promoteurs s'attaquent à la valeur des terrains, ils veulent les faire descendre. Hein ? Est-ce que vous m'écoutez?
Oui.
Ils font baisser la valeur des terrains. Ça leur permet de les acheter à bas prix, ensuite d'expulser tous les habitants, puis d'augmenter les prix et de revendre le tout à profit. Ce qu'il faut qu'on fasse, nous tous, c'est de se battre pour conserver notre quartier comme il est.
Quartier nord de Marseille. La Castellane est l'une des cités les plus chaudes de la ville.
On pourrait avoir une priorité, s'il vous plaît, on est à 0-2, on n'a pas d'équipage. Donc maintenant, on a un hall qui est identifié avec tout le monde dedans. On prend des projectiles, on aimerait avoir du monde, c'est reçu?
Il faut rester black. Pour ça, il faut faire du fric black. Il faut faire comme les Juifs, les Italiens, les Mexicains et les Coréens le font.
Oh, c'est pas les émigrés qui font baisser la valeur immobilière du terrain. C'est ces fumiers. Ils se canardent entre eux, ils vendent du crack et toutes sortes de...
Oui, et comment il arrive ici, le crack? Des avions, on n'en a pas, nous. Des bateaux, on n'en a pas. Faut pas croire, c'est pas nous les fumiers qui, par bateau ou par avion, font venir la défense. Et c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la télé, c'est ce qu'on voit. Des blagues.
Ouais.
Ils disent du crack.
C'est vrai.
Ils poussent au crack.
Ouais.
Ouais, qui poussent au crack, je sais. C'était pas un problème quand ça ne se passait qu'ici. C'est devenu un problème quand ça a touché l'Iowa et Wall Street.
Pas une des livres quartier de merde, radio de merde.
Michel,
quant à la question des armes, pourquoi il y a un armurier à tous les coins de rue dans notre communauté?
Pourquoi?
Je vais vous dire pourquoi.
Ouais, vas-y.
Pour
vas-y,
la même raison que vous trouvez de l'alcool à tous les coins de rue ou presque de nos ghettos blacks. Pourquoi? Parce que les blancs veulent qu'on se tue, qu'on se détruise.
Ouais.
Ça, vous l'avez pas dans les quartiers chics de Los Angeles.
Arrêtez une 38 de TK700, deuxième tir. Troisième tir de mortier.
8 tirs de feu d'artifice qui proviennent du cœur du quartier.
Aux armes et
allez, tous les équipages, on dégage. Tous les équipages, on s'en va. On se prend trop de caillasse. Allez, on s'en va.
Depuis les critiques des cages à lapins et de la sarcellite formulées dès les années 60 jusqu'à la récente dénonciation du séparatisme qui régnerait en leur sein, en passant par les inquiétudes face aux émeutes ou les dénonciations de la souffrance sociale, du racisme et de la pauvreté subie par leurs habitants et habitantes, les images génères associées aux cités sont aussi variées que mouvants. Ils reposent sur des mots, des expressions et des formules toutes faites, le plus souvent disqualifiantes, qui visent en particulier les jeunes hommes racisés des cités à qui est déniée l'appartenance à la société, à la communauté nationale, voire à l'humanité. Zone de non-droit, territoire perdu de la République, peuplé de racailles ou de sauvageons coupables d'incivilité ou incarnant une décivilisation ou une mexicanisation. Lorsqu'ils se révoltent, comme à l'été 2023, ils peuvent être comparés par les représentants des syndicats de police à des hordes sauvages contre qui nous serions en guerre, ou encore à des nuisibles qu'il s'agit donc d'éradiquer.
De ce magma de représentation, un terme s'est progressivement détaché, ghetto. Cette notion évocatrice répond à des usages et des significations hétéroclites. Elle charrie l'imaginaire des injustices du ghetto noir états-unien et celui de l'enfermement des juifs par le régime nazi dans les ghettos des villes d'Europe de l'Est. Elle permet de souligner et de dénoncer la ségrégation raciale et socio-économique subie par les habitants, habitantes, ainsi que les inégalités que celle-ci fait peser sur leur destin en termes d'accès au logement, aux soins, à l'emploi, de réussite scolaire. Mais elle évoque aussi le développement à l'intérieur de ces quartiers d'une culture ou de normes spécifiques pouvant présenter une menace pour l'ordre social, un mode de vie fondé sur l'économie illégale associée au trafic de drogue, sur la dépendance aux aides sociales et l'assistanat, sur la délinquance et la violence, sur une forme exacerbée de sexisme et d'homophobie, ou encore sur un islam radical qui mettrait en péril la République.
Par conséquent, l'image du ghetto sert aussi bien à dénoncer les injustices spatiales qu'à accuser la population de ces territoires d'être responsable de son exclusion, de s'être volontairement placée à l'écart du reste de la société en ayant établi de dangereuses formes de communautarisme ou de séparatisme. Le succès de la notion tient en partie à son caractère flou. En l'utilisant, on peut aussi bien se prévaloir d'une approche dénonciatrice ou critique que proposer une description stigmatisante et pathologisante de ces territoires. Ces usages contraires reposent toutefois sur une définition commune du ghetto, une forme très avancée de ségrégation, d'enfermement résidentiel subi et un milieu spécifique à l'écart du reste du monde social et produisant des effets négatifs sur l'intégration sociale et économique de ses membres.
Paris vient d'ici, tu contestes, repars ton test à manga. Belzuns, fleuron des quartiers phocéens, coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le pégan.
Tout sort d'une ronde.
Belzins,
Breakdown.
Alors salut tout le monde, c'est Gam Morrison, chez Confrérie au TDJR. Ouais, ça tu quoi ça
TDJR dans le 9ème. Là par exemple là on a l'observance, c'est un petit quartier un peu en hauteur et tout, belle vue de partout, t'as compris. Et puis en bas, tu sais, vers là, il y a Valmy, la Duche en haut.
Bah moi je m'appelle Mani GT, j'habite dans le 8ème, j'habite au Grand Trou. Là on est au Grand Trou là. Là on est à l'impasse Caton, dans le vaisseau mer, là c'est le quartier centre.
C'est ça,
quartier centre, c'est ici que tout a commencé.
Le 8ème, hein.
C'est ça exactement. Où j'ai commencé mes premiers clips, mes premières musiques, mes premières inspirations. Tout est venu ici. Mes premières bêtises aussi, forcément.
C'est où en fait, pour ceux qui connaissent pas déjà?
Jibor, voilà, c'est à part. Ah ouais, 59 c'est à part, Jibor c'est à part. Jibor c'est pas comme chez tout le monde. Si t'habites à Jibor, tu peux pas sortir de Jibor. Jibor c'est une petite ville à côté de Lyon. Et voilà.
On est où du coup là en fait? On est à Villeurbanne.
À Villeurbanne, ouais. On est à la Ferrangère, Villeurbanne, 69-100.
Pour l'heure, chacun s'occupe comme il peut à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions, chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, hein, qui le crut, pas eux en tout cas. Tout sort d'une ronde, Belzins Breakdown.
Là, on est où en fait là? De quel côté des Minguettes?
La rotonde.
La rotonde, ouais.
Là, on a la rotonde. Là exactement, là on est derrière le bureau tabac de la rotonde. Là où je suis tous les jours, là où...
Ici frérot, t'es à Saint-Priest-Bel-Air, c'est là où j'ai grandi. J'arrive, je descends du bat et voilà, je me balade, t'as vu.
On est à Vénissieux, comme tu peux voir, à la rotonde. Quartier des Minguettes.
Là on est dans la cité Jardin, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Plus communément appelé les Mèzes, dans le quartier.
Bah, comme il t'a dit l'allemand, tu sais, au Minguettes, il y a plusieurs quartiers. T'as la Rotonde, la Division Leclerc, t'as Montrousseau, t'as Maurice Thorez à côté. C'est super grand. Et chez nous, c'est, tu connais, la rue, frère, et on reste soudés, tu vois, c'est la base.
J'ai vibré la dance soul.
Ghetto, enfant du ghetto. J'te parle pas du grand Clito Ghetto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant banlieue où la merde colle à la peau.
L'idée de ghetto s'est progressivement imposée dans l'espace public. Dans le champ politique, elle sert de cadre aux politiques de la ville élaborées à partir des années 1980 et qui se font selon laquelle la concentration spatiale des pauvres et des minorités raciales dans certains territoires est la cause de leur exclusion, plutôt par exemple que les logiques d'exploitation économique ou les discriminations raciales subies. Pour remédier au problème des banlieues, il faudrait donc limiter ces regroupements spatiaux et produire de la mixité sociale.
L'emploi du terme ghetto est également répandu en sciences sociales à propos des cités. Après des critiques dans les années 1980 et 1990, il est revenu depuis le début des années 2000 pour décrire les cités françaises. Les théories articulent deux grands arguments qui rejoignent en partie les représentations courantes associées au terme. D'une part, les mécanismes qui régissent l'accès au logement et à la ville produiraient une relégation spatiale des catégories les plus précaires de la population et des minorités racisées qui se retrouveraient assignées à résidence dans ces quartiers. Cet isolement spatial conduirait d'autre part au développement d'un mode de vie spécifique qui, par les valeurs et les ressources qu'il promeut, aurait des effets essentiellement néfastes pour l'intégration sociale des habitants-habitantes, donc à l'émergence d'un contre-monde, d'un univers à la fois alternatif et antagoniste aux normes et valeurs du reste de la société.
Mais attends toi, tu viens de quel quartier? Faut payer pour sortir en
ville. Je lui dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers sont en guerre. Attends, je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sorte mon sac de hockey, un harpon, il me dit.
Ah bon?
Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs.
Sachant qu'ici déjà au Grand Tronc, on a toujours été solidaire à la base. Toujours, toujours. Et comme t'as pu le constater tout à l'heure, même si les gens ils sont un peu nerfs à vif, il y a eu une petite altercation. Ça fait partie du quotidien tous les jours. Les gens ils sont comme ça, ils sont un peu malades des nerfs, ils sont un peu énervés. Mais après niveau solidarité, on a toujours été ensemble.
Toi t'es du 9ème en général, t'as
ouais en vrai moi je suis du 9ème en général, si tu veux. Comme j'étais petit, j'habitais à la Duche et après j'ai déménagé à l'Observance. T'as vu, l'Observance et Valmy, c'est pas très loin, c'est pareil en soi.
Les messes c'est que.
Les messes c'est trois cours.
Ouais.
Et il y a la première cour, celle-là c'est la centrale et il y a la troisième à droite. Et en gros les messes c'est une cité, elle est historique dans Lyon. T'as vu sur les bâtiments? Moi je vais te montrer après, il y a des trucs qui sont gravés. Tu sais, c'est les architectes qui l'ont construit comme ça. C'est des monuments historiques. Tu sais, même des fois il y a des gens, ils viennent et tout. En mode comme des groupes touristiques, tu vois ce que je veux dire?
Ah oui carrément.
Ils viennent, ils regardent, ils prennent des photos des bâtiments et tout.
L'école primaire, la canale. Ouais, bah oui, on était tous là. Après il y a le collège derrière. On a tout fait dans ce quartier en vrai.
J'habite, Cham, j'habite là.
Quoi, ils ont toujours été là, ce bat, ou ils sont récents?
Toujours. Je suis né, ils étaient là. Et je vais mourir, ils sont là.
Sûrement.
Toujours. Sûrement, hein, c'est sûr.
Cool, là, on est au petit parc, c'est ça?
Le petit parc, j'ai grandi ici, avec les frères. J'ai grandi là, ça faisait des foot ici, ça c'était la cage. Ça c'était la cage de foot.
Ah ouais?
Ouais, le portail c'était la cage de foot. Et en plus là, il y a le bureau de la police municipale.
Ah bon, ouais.
C'est gentil ici. Ouais, c'est pas comme à Lyon et tout ici. Et voilà, le cusp, quand il pleuvait, on allait se réfugier là-bas. Et ici, c'est où on a tout fait.
Et ouais, mon poteau, le monde est grandissant alors que je sors pas. Chez Wamé, j'ai maté sans fond des grands. Dehors, ça traîne dans les halls là. Si t'es habibi, les rôles-là. Si bête, t'es le score des néonas. Si bête.
Franchement, frérot, c'est. Ouais, là, on est à part, nous, t'as voilà, je t'invente pas Saint-Priest, on est à part, frère. J'irais même pas te dire. Voilà, on est à part, quoi. C'est par rapport à d'autres, t'as vu, à d'autres villes et tout.
Il y a des trucs. Ouais, c'est comment, même ici, est-ce qu'il y a des. Je sais pas, des façons de parler qui sont différentes des autres secteurs, des.
Il y a un mot, ouais, Boucham. On dit Boucham, en gros, t'es une Boucham. Et Saint-Priest, Boucham, en gros. Et il est Boucham, en gros, t'es un menteur. T'es Boucham.
Ah, ouais, ouais.
Et c'est le mot qu'on dit, tu vois.
Pour tous ceux qui veulent réparer des voitures, il est là.
Ouais,
ça va,
mais qui toujours là, toujours à l'affût, pièce auto retourne délicieux.
Ici dans ce quartier là au Grand Trou, il y a beaucoup de personnes qui sont actuellement en prison, comme mon petit frère, comme moi. Après, je suis pas fier d'être allé en prison.
Libérer les frères enfermés.
Ça fait pleurer ma mère, ça rend malheureux ma famille. Malheureusement ici, il y a beaucoup trop de personnes condamnées. Ici beaucoup de personnes qui prennent de la prison, qui finissent enfermés. C'est normal, après leur revendication, ils ont envie de tout retourner. Mais voilà, on est obligé d'être débrouillard. La précarité, on est obligé d'avoir les moyens de faire de l'argent, quoi.
Dans l'ouvrage dans lequel nous piochons, Quartier populaire, défaire le mythe du ghetto, le sociologue Pierre Gilbert défend la thèse que le ghetto est une chimère, une, je cite, « idée sans rapport avec la réalité qui rend mal compte de la situation réelle de ces territoires et un monstre imaginaire », une citation encore, qui contribue à renforcer la disqualification symbolique des minorités racisées et des fractions précaires des classes populaires.
Les théories du ghetto rendent très mal compte de la réalité sociologique des quartiers populaires périphériques de la France contemporaine. La thèse de la relégation ne reflète pas le fonctionnement réel de la ségrégation socio-économique et raciale, et l'idée d'un contre-monde, défini par une différence radicale, est démentie tant par l'ambivalence des effets de quartier que par les nombreux points communs qui existent entre le monde des cités et d'autres milieux sociaux. C'est pourquoi il est grand temps de se débarrasser de l'idée de ghetto. L'image du contre-monde fait écho aux nombreux lieux communs qui présentent les cités comme des zones de non-droit régies par des logiques de séparatisme social et culturel.
Aux États-Unis, la figure iconique du ghetto contribue à reproduire la domination raciale en nourrissant un imaginaire qui légitime l'altérisation et l'infériorisation sociale de l'ensemble du groupe des Africains américains. Les discours tenus en France sur le ghetto participent à la reproduction symbolique des rapports sociaux de classe et de race. En fait, ils confortent l'idée selon laquelle les minorités racisées, donc en France, arabes, noirs, musulmanes, et les fractions précaires des classes populaires forment dans leur ensemble, au-delà des seuls habitants et habitantes des cités, un groupe étranger qui s'échappe aux règles de la République, autrement dit une race et une classe dangereuse qu'il s'agit le plus souvent de condamner, parfois de célébrer, toujours de fantasmer. Cette catégorisation joue enfin un rôle déterminant dans les processus symboliques et matériels de domination de ces catégories sociales et légitime les discriminations qu'elles subissent.
Les gens de ce quartier sont plutôt moches et crasseux, c'est vrai, mais enfin, ce sont tous de braves gens. On partage le peu qu'on a. Si tu veux te joindre à nous, t'es le bienvenu.
On veut améliorer là où on crèche, on ne se contente plus de vivre d'amour et d'eau fraîche. L'important n'est pas d'être riche, sûrement on s'approche. Dis-le à tes proches si tu t'en fiches. On veut améliorer là où on crèche, on ne se contente plus de vivre d'amour et d'eau fraîche. L'important n'est pas d'être riche, sûrement on s'approche. Dis-le à tes proches si tu t'en fiches.
On retrouve direct des favelas, hein.
Voilà. Toi, t'as toujours été d'ici, Jougo?
Toujours ici. T'as ici, j'ai été d'ici même. Mais après, le 8ème, c'est autant chez moi, tu vois. Je suis à l'aise dans le 8ème complet, tu vois.
Ouais.
Je peux être ici, comme à la rigueur un peu partout, mais c'est ici que j'habite.
En gros, cette plaque, c'est. Elle cite le nom du quartier quand elle a été construite. C'était des habitations ouvrières avant. Il y avait même le bain-douche et tout avant. Il n'y avait pas les douches dans les appartements. Je te parle d'avant. Et regarde, elle date de 1924.
Ah oui, quand même, hein.
C'est l'une des premières cités, je crois, ouvrières de Lyon.
en léger, là c'est le barbecue, comme tu vois, c'est le camp pour se chauffer l'hiver. Bien chaud,
quoi, c'est
le camp pour se dire bien chaud, mon secteur.
Quoi, c'est ici que ça charbonne ou quoi?
C'est ici que ça charbonne, tu vois, là il est là, le GTR, il est posé. Ma petite vue où ils peuvent rentrer là par sans interdit.
Ouais, ils arrivent d'où? Ils arrivent d'où et du coup en général?
Ou par là, mon frère, ou
bon, sans interdit quand ils sont chauds par là-bas, mon gros.
Ok, ok, ok.
Comment on a la foutre direct?
Ouais, direct, hein.
Moi, mon enfance et tout, par exemple, j'allais à la MJC. T'as vu, j'allais à la MJC à la Duche, des trucs comme ça. Mais vas-y, pas plus. En vrai, de vrai, c'est que j'aime mon secteur parce que c'est, j'ai grandi là, en vrai. C'est pour ça, c'est parce que j'ai grandi là, en vrai.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts.
Vers la rue Marieton, par exemple, c'est rempli de snacks sur l'allée. En gros, tu peux manger ce que tu veux, en vrai. C'est vraiment, il y a de tout.
C'est ce tacos-là, du coup, le meilleur?
Ouais, c'est ça, presto.
Gros, est-ce que tu valides que les tacos lyonnais, c'est les meilleurs de France ou pas? Est-ce que tout le monde le dit?
Franchement, bien sûr que c'est les meilleurs. C'est même pas une question à se poser, je te vois.
Là-bas encore, c'est Saint-Priest ou quoi?
C'est tout Saint-Priest. Ah, là, non, là, t'es bah... encore à Bel Air 2, dis-toi, frérot. Là, on va passer au City. Et voilà, frérot. Là-bas, c'est des autres quartiers de Saint-Priest, t'as vu? Mm-hmm. Ici, t'es à Bel Air encore.
Ah, c'est divisé en 3 Bel Air.
Ouais, Bel Air, il y a 3 Bel Air. Il y a B1, B2 et B3, frérot.
C'est quoi, en fait?
C'est 3 quartiers différents, mais c'est collé. Bel Air, on est très soudés, frérot. On est très soudés.
Premier clip, il s'appelle comment lui?
Lui, je suis dans la zone.
Je suis dans la zone, ouais.
Je suis dans la zone, tu vois.
Toujours dans la zone, gars.
Voilà. Je suis avec Samos, tu sais, Samos, c'est la famille. Et je te fais montrer un son qui fait montrer notre quotidien, notre vie, tu vois. Et tu vois, on va clipper, je suis dans la zone. Je vais pas sortir de ma zone. Je vais te faire montrer c'est quoi la zone.
Là, je vois ambiance, grillade, moto et tout, non?
Exactement. Parce que dans la zone, quand il commence à faire beau, c'est barbecue, voiture, location et on s'ambiance entre nous. On a besoin de personne, tu vois. Comme l'État il a voulu, en enfermant entre nous et en s'enlançant entre nous.
Là l'été tu vois des grosses paillotes au milieu.
Ah ouais?
C'est vivant, voilà, là c'est juste il fait moche, tu vois ce que je veux dire?
Bah ouais.
Sinon c'est vivant ici, voilà.
Ouais ouais, c'est pour les rats de la région. C'est la zone ripoto. Le réseau, ça charbonne l'été, ça charbonne l'hiver.
Il y a toujours eu une forme d'isolement pour les plus réfractaires, pour ceux que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas gérer, ne savait pas gérer et voulait casser.
Nadia Ménonger, autrice des livres « À ceux qui se croient libres » et « La liberté ne se mendie pas ». Elle est une des fondatrices des émissions « Parloir libre » et « L'envolée ».
Mais sur les bagnes, puisqu'il y avait même dans les bagnes un bagne de haute sécurité. Et puis après, par la suite, quand les bagnes ont été supprimées, il y a eu mandes, enfin des prisons qui n'avaient pas vraiment de statut dans un premier temps, où étaient enfermés dans des conditions absolument épouvantables les prisonniers qui s'évadaient, qui se révoltaient. Il y a eu dans les années 70 des luttes absolument incroyables. Ce qui est intéressant et ce que j'ai bien, enfin sur lequel j'ai envie de revenir, c'est que à la fois elles étaient menées par souvent des prisonniers sociaux. On les connaît, hein. Enfin je veux dire les noms ne sont pas inconnus, Mesrine, Nobel Peace, Taleb Adjadj, Debrielle. Enfin il y a eu plein de prisonniers qui étaient souvent incarcérés pour des très longues peines et qui se retrouvaient dans les quartiers d'isolement, les QHS, les quartiers de haute sécurité. Et qui ont mené des luttes extrêmement dures, qui ont fait de leurs procès des procès contre les quartiers de haute sécurité. Et ce qu'il y avait d'intéressant à l'époque, surtout après l'incarcération d'extrême gauche de la cause du peuple, une politisation de la question carcérale. Et d'ailleurs, alors bon, il y a eu plein de luttes à l'époque sur ces questions-là. La question était tellement importante, la question de l'isolement, comme torture, comme moyen d'élimination des prisonniers, comme moyen de censurer aussi, d'oublier les prisonniers dans des espèces d'oubliettes modernes, qu'étaient les quartiers de haute sécurité. Et ben, ce sujet s'est invité aux élections présidentielles de 81, et sur le programme de Mitterrand, il y avait la suppression des quartiers de haute sécurité. D'ailleurs, quand tu discutes des fois avec les gens ils disent « mais non, ça a été aboli en 81 ». Et non, ça n'a pas du tout été aboli en 81, puisque c'est réapparu sous une nouvelle appellation. Les socialistes étaient très forts à l'époque pour changer le nom des choses sans changer leur nature, et c'est devenu les quartiers d'isolement. Passé que c'est dans les mi-80, fin 80, il y a eu les prisonniers d'Action Directe qui ont mobilisé autour de leur sortie de l'isolement à eux. Et nous, on avait envie de poser la question d'une manière plus générale. Et c'est en réponse un peu à cette particularité qu'on a voulu monter le comité pour l'abolition d'isolement carcéral pour demander sa suppression, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, en tant que principe, c'était inadmissible, aussi bien pour des prisonniers politiques que des prisonniers sociaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà, dans un premier temps, demandé beaucoup de témoignages pour arriver à faire comprendre aux gens que les QHS et les quartiers d'isolement, c'était la même chose, et que donc, les raisons de se battre contre les QI restaient complètement valables. On a essayé de répertorier aussi tous les prisonniers qui étaient en quartier d'isolement. À l'époque, on avait réussi à en répertorier et à être en contact avec à peu près 80 prisonniers. Et puis, on a soutenu les mutineries, les luttes, les grèves de la faim, enfin tout ce qui pouvait mettre sur le devant de la scène ces conditions de détention absolument d'un autre temps et complètement inadmissibles. Et y a aussi des prisonniers qui sont venus nous rejoindre.
Sinon, il y a une adresse où le comité peut être contacté, c'est donc le CEC, Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral. Et nous, ce qu'on dit, c'est que chacun en est fait à ses problèmes, chacun pense qu'il peut les réduire tout seul, qu'il peut les résoudre tout seul, mais on pense que c'est pas vrai. Nous, on pense que plus les gens se battent, plus les gens s'organisent, plus les gens se regroupent, plus ils sont forts. C'est sûr que la prison, c'est un monde qui est dur. Enfin, vous qui êtes dedans, vous le savez sûrement mieux que moi. Mais les événements passés, tout ce qui se passe a démontré que plus vous étiez regroupés, mieux ça se passait pour tout le monde, et de toute façon, en sachant aussi qu'à l'extérieur, il y a un relais. Donc c'est pour ça que le maximum d'informations est important, que ce soit d'ailleurs pour les histoires d'isolement, comme ce soit pour l'enfermement à Chenon.
Où tout le monde se connaît.
Quand on vient à la Croix-Rousse, on n'est pas lyonnais, on est croix-roussien.
Immeuble insalubre, pauvreté qui gagne du terrain.
Plus qu'un quartier irrésistible, la Croix-Rousse, nichée sur les hauteurs de Lyon, c'est un état d'esprit.
Mais moi, personnellement, bon, on a cambriolé il y a 2-3 mois, on est rentré chez moi. Mais apparemment, ce sont des bandes qui viennent d'autres.
Cette colline lyonnaise, qui tire son nom de la croix qui la dominait au XVIe siècle, elle la connaît par cœur et la arpente toujours avec plaisir, d'autant plus les jours de marché.
Au pied des tours de la Villeneuve, un des quartiers sensibles de l'agglomération, se joue une guerre de territoire entre jeunes et policiers.
Qui est extrêmement convivial, surtout quand on vient en fin de semaine. Et puis surtout, eh bien, il est là toute l'année, donc c'est un vrai plaisir pour les Lyonnais.
Voilà, parce que nous défendons, nous essayons de défendre l'âme croix-rousse.
Tous les quartiers ne se valent pas.
Dans les médias, la hiérarchie est explicite entre les quartiers périphériques et les centres réhabilités, les quartiers sensibles et les quartiers qui montent, les quartiers de banlieue, les quartiers de grands ensembles, de barres d'immeubles et les quartiers bohèmes, authentiques, les quartiers villages. Dès les années 80, de manière généralisée à partir des années 90, les quartiers centraux historiquement populaires des villes en France connaissent un embourgeoisement rapide. C'est le phénomène de la gentrification. La réhabilitation des immeubles anciens, souvent encore vétustes, voire carrément délabrés de ces quartiers, accompagnée d'une bonne dose de spéculation immobilière, mais aussi d'un zeste de coolitude apporté par une population jeune et artistique, font progressivement passer ces quartiers populaires du statut de quartier malfamé à celui de quartier bohème et authentique. Les prix des loyers explosent et la composition sociale de la population de ces anciens quartiers populaires change du tout au tout pour laisser place aux cadres et aux bourgeois.
Dans la bouche de ces nouveaux, désormais plus si nouveaux, habitants et habitantes des quartiers gentrifiés, il y a une expression qui revient tout le temps au point d'être devenue un classique de la gentrification, c'est celle du quartier village. L'expression permet d'embrasser à elle seule tous les critères qui font frémir le petit cœur des gentrifieurs. Le charme de l'ancien, vous savez, comme les poutres apparentes et les plafonds des anciens ateliers des canuts à la Croix-Rousse, les vieilles pierres et les petites rues où on se promène avec plaisir, les marchés de producteurs où on fait ses emplettes le dimanche, les petits artisans qui retapissent le fauteuil de maman, font une si bonne bière locale ou un pain exquis bio et au levain. Quartier-village aussi parce qu'on y vit à une échelle plus resserrée. On y croise ses amis au troquet ou devant l'école des enfants, on connaît les commerçants. Et puis on y fait tout à pied parce qu'il y a tout sur place, comme au village.
Cette expression de quartier-village se construit en opposition au reste de la ville. Une sorte de petite Eldorado, le bastion qui résisterait encore et toujours aux méchants envahisseurs de la cité, aux rythmes effrénés et à l'anonymat qui englit toute joie sur son passage. En gros, il traîne, mais l'idée est là, le village, c'est mieux que la ville. Et le combo village dans la ville, les avantages du rural moins les inconvénients, alors là, c'est un coup de génie qui mérite bien un prix au mètre carré exorbitant. Pourtant, si on comprend l'ambiance générale que tente de décrire l'expression, les critères donnés pour décrire le quartier-village ne semblent pas être l'apanage des quartiers gentrifiés. Un marché, une vie de quartier, des habitants qui se parlent, des commerces de proximité. On peut retrouver ça, tout ça dans les quartiers populaires de grands ensembles, pour citer un exemple, qui fâche finalement.
Bien sûr, on n'est pas dupe. Quand les gentrifieurs parlent de commerce de proximité, on est plus sur l'épicerie bio et la friperie trop chère que sur l'épicerie orientale et le marché de puces. Pour reprendre un exemple, à Marseille, quand la place de la Plaine est réhabilitée, les bourgeois bohèmes ne s'empressent pas de se rendre au marché populaire dont le retour a été arraché de haute lutte par les plus vieux habitants et dont ils déplorent la saleté et le bruit, mais ils créent un deuxième marché, bio et local, dans lequel ils se reconnaissent plus. L'ambiance de quartier, l'ambiance populaire, simple, vivante, dont parlent les gentrifieurs, ils en veulent en fait la version édulcorée, décorative, qui ajoute un petit quelque chose à un quartier bien bourgeois par ailleurs. En bref, une tour de charme et d'ancien, mais refait à neuf par l'architecte.
Par ailleurs, le réflexe même de se référer au village dans une vision évidemment caricaturale et fantasmée, si ce n'est réac, du monde rural, est révélateur d'un regard exotisant et folklorique porté sur les pratiques populaires. L'expression « quartier-village » vend de l'authentique quelque part où il ne reste plus grand-chose d'authentique. Que reste-t-il des pratiques populaires dans les quartiers gentrifiés? Des commerces aux habitantes, tout a été broyé dans la machine à sous. On ne voit plus ni les visages ni les corps, on n'entend plus les voix et les sons, on ne sent plus les odeurs. Ne reste que les murs et les pavés. Est-ce que ça suffit vraiment à retrouver cette âme dont on parle pourtant volontiers, comme si ça pouvait effacer la violence sociale de l'éviction progressive d'un groupe entier de population de son propre espace de vie?
But at what cost?
Brixton was once a no-go area, but look at Brixton now. Brixton's become a prime location where everyone wants to go. It's a worldwide situation, a thing called gentrification, making more and more by displacing the poor. Estate agents are on come, property developers are come down, gentrification day after sure. We used to love to go to Brixton Market, a very vibrant spot. Then we went down to Blackadjet Music Store and the Weatherman Shop. But the face of the place start changing, local government start rearranging, making more and more by displacing the poor. Rent gone up and you're facing eviction, houses abandoned for dereliction, gentrification day after sure. These places are found in the vicinity, very close to the city. They were once just for working community, never had to be too pretty. Workers of a certain ethnicity, they were not too picky. Nowadays if you don't own your own property, them not have no pity. All over the world it is happening, from London to Harlem to Brooklyn, gentrification adding thing. From Toronto to Cape Town to Berlin, look how the places are turning. Seems like the poorer people can't win. What a thing. For those who can afford to stay and afford the new amenities, that's okay. But for some of them it's not that way. They've lived here for decades and have to move away. Should they have to pay such a big price? Some of them have lived there their whole life. Have to leave the place as it start look nice. I'm sure there could have been more investment that benefits all of the residents. Share out the cake, everyone gets a slice. Me not blame the ones who didn't know. New houses on the market, that's all they know. They don't know about the to and fro. They just find a new property and going with the flow. Some landlords, all they know is cash flow. They don't business about the pain and sorrow. There was a time when everyone you come, but now them can't wait for you to go. Talk about how the crime is low. New buildings and plants and trees, them are grown. Where next? Well, I don't know. You never know. Might just be Chicago.
Je m'appelle Osil Mohamed et je suis rentré en prison trois fois. Quoi. La troisième fois, c'était pour attaque à ma armée et j'ai pris six ans. Et après, quand je me suis retrouvé dans la prison, j'ai commencé à militer, à rejoindre la coordination des prisonniers en lutte. T'avais des prisonniers qui avaient monté un collectif. Ils se battaient pour la fermeture des quartiers d'isolement, pour différents injustices. Je les ai rejoints et après, suite à ça, ils m'ont mis en quartier d'isolement. Moi, j'étais incarcéré tout au début à Bois d'Arcy. Moi, ils m'ont fait Bois d'Arcy, mais après, avec l'isolement, j'arrêtais pas de bouger. Quoi. Ils m'ont envoyé à Fresnes, à Fleury. À Fresnes, j'étais dans la première division où il y a une grille exprès pour tous les isolés. Quoi. C'est au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée, c'est fermé avec des grilles. Quoi. Tous les isolés, ils sont là. Dans les quartiers d'isolement, bon, les plus durs, c'est pour les révoltés. Moi, j'ai connu les Basques, les Corses, beaucoup de prisonniers politiques, et puis les droits communs. Moi, j'ai connu Jean-Marc Rouillant et tout ça, Régis Lesserre à Fleury. Voilà, c'est beaucoup les détenus révoltés, quoi. Puis sinon, t'avais aussi, à Bois d'Arcy, t'avais des travestis qui étaient enfermés. Eux, c'était pour leur sécurité à eux, quoi. « L'isolement, t'as même pas le droit de parler. C'est moi, le jour où j'étais à l'isolement, j'ai chanté une chanson, elle surveillait, elle a ouvert la porte. Monsieur Austin, article temps. Je me rappelle plus de l'article, article temps. Vous avez pas le droit de parler, vous avez pas le droit de chanter. Tu vois, c'est là que j'avais découvert l'isolement. Voilà, même parler, même chanter, t'as pas le droit. De toute façon, à l'isolement, c'est tous pareil. À l'isolement, t'as la table en béton, le ciel en béton. Et quand tu sors pour aller au parloir, t'entends bloquer les mouvements. Personne ne doit aller dans les couloirs. Et il y a un maton et un surveillant chef qui vient t'ouvrir la porte pour t'accompagner au parloir. T'as un lit par terre, c'est du béton par terre. C'est là où tu poses ton matelas. T'as une porte pour ouvrir. Et dès qu'ils ouvrent la porte, derrière, t'as une grille. T'as une porte en grillage, tu vois. T'as une porte en grillage où t'as juste un petit trou où il passe le plateau. T'es fermé derrière la grille. C'est, moi, quand j'étais à l'isolement, c'était à peine. Je me rappelle, j'ai entendu un camarade. Et le mec, il était âgé. Hein. Moi, je devais avoir 22, 23 ans. Et le mec, il était plus âgé. Je l'entendais, il pleurait. Il disait, s'il vous plaît, laissez-moi retourner en détention. Et le mec, il chialait, quoi. Et c'est vrai qu'à l'isolement, tu peux te tuer, quoi, c'est clair. Tellement c'est atroce, tu peux te tuer. Alors, et moi, je faisais le sport et voilà, je faisais le sport et je restais dans la lutte, quoi. Moi, je continuais la lutte, même à l'intérieur, voilà, j'écrivais ou tous les bouquins, moi, les bouquins que je lisais, les bouquins de la bibliothèque, sur toutes les pages blanches, je marquais, rejoignez la coordination des prisonniers en lutte, écoutez la radio, tel jour, de telle heure à telle heure, ils ont même trouvé les bouquins, ils m'ont fait payer tous les bouquins, quoi, tu vois. Les bouquins où il y avait les pages blanches, j'écrivais dessus, tu vois. Moi, ils m'ont fait payer les bouquins et j'étais interdit de livres pendant au moins 6 mois, quoi, tu vois. C'est ça qui me motivait. C'est ça qui faisait que, voilà, j'oubliais la misère de l'isolement, quoi. J'ai évité de regarder par la fenêtre, même si tu vois rien, mais comme il y a les grillages et tout ça, c'est vrai que ça peut te déglinguer les yeux. Tu vois, et moi, après, je regardais plus la fenêtre, quoi. J'oubliais la fenêtre, et voilà, je vivais, si tu veux, dans ma vidéo intérieure, quoi. Dans ma tête, je marchais dans la cellule, et j'étais dans ma tête, quoi. C'est tout. Je regardais pas la fenêtre, là. Sur ma porte, c'était marqué DPS, procès de Mohamed, DPS, ouais, détenu particulièrement surveillé. Si, moi, ils m'ont mis, moi, je suis un petit braqueur de cité, et pourtant, ils m'ont mis DPS, moi, voilà, par rapport à le fait que j'avais un esprit syndicaliste, quoi. Ils savaient que je faisais des lettres, que je portais le mouvement, que je me cachais pas, j'avais pas honte de porter le mouvement, au contraire, j'en avais rien à foutre du mitard, j'en avais rien à foutre de la répression, quoi. Je portais le mouvement jusqu'au bout, quoi. J'en avais rien à foutre. Et moi, ils m'ont mis, oui, ils m'ont mis DPS.
De l'étymologie du mot quartier nous renvoie à l'univers militaire. Il y a les quartiers d'hiver où les troupes s'installaient pour passer la saison froide. Il y a le quartier général qui désignait d'abord les officiers composant l'état-major, puis désormais de manière plus large le lieu habituel de leur réunion. Il y a l'expression avoir quartier libre qui vous rappellera peut-être vos voyages scolaires ou la fin de séance piscine en primaire. L'expression pas de quartier vient du même univers. On appelait le quartier de sauveté l'endroit où des assiégés pouvaient se barrer en sécurité après avoir cédé la place aux assiégeants. Un lieu de repli. Quartier de sauveté qui a donné ensuite l'expression « donner quartier » signifiant « accorder la vie sauve » et qu'on utilise en négatif aujourd'hui « pas de quartier ». Pas de quartier, c'est être sans pitié. Et quand on parle des FAF, magie, tout fonctionne. Pas de pitié pour les fachos, bien sûr, mais pas non plus de lieu de repli, encore moins de lieu de pouvoir, de quartier général. Pas de fachos dans nos quartiers et pas de quartier pour les fachos dans tous les sens du terme. Dans l'espace médiatique, culturel comme physique, ne pas céder un pouce de terrain à l'extrême droite comme on le voit dans l'actualité, on y parvient si bien.
Bon, blague à part, c'est un principe politique qui s'incarne historiquement de plein de manières, en refusant de débattre et se faisant de céder un espace de parole, fut-il critique au FAF, par exemple, comme c'est le cas sur Radio Canu, et comme il serait de bon ton de le rappeler à un certain nombre de camarades et moins camarades.
C'est aussi, parfois, se défendre contre les attaques physiques des fachos. On a déjà parlé dans cette émission de l'ère des chasseurs de ski dans les années 80 à Paris, qui se sont organisés contre le mouvement skinhead néo-nazi et leur ratonnade.
C'est également ne pas les laisser avoir pignon sur rue. À Lyon, où, comme chacun sait, le centre historique a quelques relents bruns, le collectif Fermons les locaux fascistes a milité pour foutre dehors les FAF. La métropole a d'ailleurs fini par voter une intention de fermeture et une dissolution des assos qui gèrent leur bar et la salle de boxe attenante. Ça peut marcher, mais c'est le genre d'opération à répéter régulièrement. Et oui, ça s'entretient, un quartier sans facho. Et de temps en temps, pour aider, il est toujours possible de murer à grand renfort de parpaings et de ciment prise rapide ce genre de QG, comme ça a été fait en 2018 avec ceux de feu le bastion social.
Pas de fachos dans nos quartiers et pas de quartier pour les fachos, c'est un slogan qui incarne bien la lutte pour empêcher l'extrême droite de s'approprier des espaces et de prendre de la place. Un chouette exemple est peut-être enfin celui d'où vient l'enregistrement du slogan qu'on vient de diffuser quand Morand Denis, dans son émission Face à la rue, avait invité Bardella à la Guillotière pour alimenter la panique neurale autour du quartier en 2021. Il s'était fait recevoir correctement entre une manif sauvage, coup d'éclat et feu d'artifice des Dalton et le bar du coin qui s'était mis à jouer à fond les Bérus. Autant dire que les ingé-sons ont dû avoir du taf. Quand la téloche a besoin d'une escouade de CRS pour jeter un regard fasciste sur nos quartiers, on peut dire qu'on est sur le bon chemin. Ne reste qu'à recommencer.
Les quartiers disciplinaires, les mitards, c'est une cellule de punition
ou quand un prisonnier, enfin que l'administration pénitentiaire estime qu'un prisonnier a commis une faute, il passe devant un tribunal et ce tribunal interne à la prison va donner une peine. Alors à l'époque c'était 45 jours, je crois que maintenant c'est un peu moins, mais du coup ça veut dire que pendant 1, 2, 3, 4 semaines, le prisonnier est enfermé, pareil, dans une cellule, tout seul. C'est dans ces quartiers disciplinaires qu'il y a le plus de suicides et qu'il y a malheureusement aussi des prisonniers qu'on retrouve morts dans des conditions pas toujours bien élucidées, quoi. Donc c'est toujours dans ces quartiers, à l'abri du regard des autres, dans ces endroits où règne finalement vraiment l'administration pénitentiaire et les surveillants, où il se passe le plus d'horreur et qui peuvent aller jusqu'à la mort.
Je suis Najette, la maman d'Idir, mort le 9 septembre 2020 au mitard de la maison d'arrêt Lyon Corba. Après être maltraité, ils l'ont tabassé et après assassiné. Nous nous rassemblons aujourd'hui contre l'extrême violence du système carcéral qui s'abat sur les personnes détenues et leurs proches, alors que l'on clame que la peine de mort a été abolie. La violence d'État, et particulièrement la violence pénitentiaire, conduit trop souvent au meurtre des personnes qui la subissent. Nous sommes là aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont mortes en prison et leurs proches. Nous sommes là pour que ça cesse. Nous sommes là pour l'abolition du mitard. Nous sommes là pour réclamer vérité et justice pour toutes et tous.